Radio Okapi. Okapi. Okapi service avec jeudi Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Clôture du mois de la femme, que pouvons-nous retenir à propos du leadership féminin? On en parle tout à l'heure avec Madame Pascaline Zamunda, activiste des droits de la femme. Madame Pascaline, bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Okapi Service. Des questions et préoccupations par rapport à ces sujets, composez déjà le 081-890-63-94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Dans la deuxième partie de l'émission, à partir de 11h05, nous allons parler du phénomène école et enseignants fictifs. École et enseignants fictifs, voilà, on nous informe qu'il y a plus de 2000 écoles et des enseignants imaginaires qui sont payés régulièrement. Les fonds se sont décaissés du trésor public pour payer 2000 écoles imaginaires. Alors comment lutter contre cette fraude massive dans les secteurs de l'enseignement? On en parle à partir des 11h05, heure de Kinshasa, dans Okapi Service. Pour participer, composez déjà le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Tati Mapoukou coordonne et réalise cette émission qui présente Jody Daniel Kachama, Jean-Claude Tiala à la mise en onde. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Okapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Eh oui, encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est déjà la clôture du mois de mars consacré à la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. La journée de la femme a été célébrée sous les thèmes leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Le thème national a tourné autour du leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Plusieurs activités ont été organisées tout au long de ces mois dans le but de promouvoir le leadership de la femme. Alors que pouvons-nous retenir sur le leadership de la femme en cette période des Covid-19? Je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons recevoir Madame Pascaline Zamunda, activiste des droits des femmes. Encore une fois, bonjour Madame.
Bonjour Jody.
Nous avons également en ligne Madame Annie Maudy, chargée des communications du mouvement Rien sans les femmes. Madame Annie, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. On commence avec vous, Madame Pascaline Zamunda. Quel bilan on peut aujourd'hui dresser par rapport à ce mois de mars consacré à la lutte pour les droits des femmes?
D'accord, merci. En termes de bilan, je ne saurais pas faire une évaluation effective, hein, parce que je n'ai pas pu... à mon niveau, savoir tout ce qui a été fait à différents niveaux. Mais d'emblée, je sais que les activités de routine telles que la sensibilisation, les actions de plaidoyer, des grandes mobilisations ont eu lieu, et c'est là, malgré le contexte des Covid, les femmes à travers les organisations, mais aussi les hommes qui soutiennent les femmes, se sont mobilisés avec des messages, des dénonciations de violences faites à la femme de façon générale, de la sensibilisation sur certaines questions d'ordre spécifique, mais aussi, je crois que des activités assez spécifiques et d'une certaine importance particulière ont eu lieu aussi. C'est notamment l'annonce du président de la République de la prise en compte de 30% des femmes dans le prochain gouvernement. Ça, c'est vraiment parmi les grandes attentes de toutes les femmes de la République démocratique du Congo, que cela soit pris en compte aujourd'hui. On l'attend bien, c'est encore une promesse. J'espère très bien que cela va être effectif. En tout cas, il y a eu pas mal d'activités et ça prouve, ça dénote quand même que malgré que les contextes restent assez difficiles dans le respect des droits des femmes de façon générale, mais il y a une certaine avancée dans les approches, mais aussi dans la prise de conscience collective.
Bien, Madame Annie Maudit, à votre niveau, quel bilan peut-on dresser aujourd'hui du mois de la femme?
Au fait, pour rajouter à ce que disait ma collègue Pascaline tout à l'heure, nous devons reconnaître que les femmes se sont exprimées dans différents domaines. Les femmes sortent maintenant de leur silence ou alors de leur modestie pour faire savoir leur réalisation et leur leadership, s'affirmer dans divers domaines, que ce soit dans la nouvelle technologie, que ce soit dans l'ingénierie, en politique et dans tous les autres domaines sociaux aussi. Et ça, c'est un bilan qui est positif, bien qu'il y ait beaucoup de défis. Et aussi, au-delà de ces défis-là, nous voyons que les femmes qui se sont affirmées maintenant constituent le modèle pour les jeunes femmes qui se réfèrent à ces femmes qui ont affirmé leur leadership dans divers domaines, y compris les domaines politiques, parce que c'est ça qui est vraiment à la une, comme nous attendons le gouvernement, et avec l'annonce que la liste a été, enfin, l'ordonnance n'a pas été signée suite au manque des femmes. L'autre défi, c'est que qu'est-ce qui fait que au sein des regroupements politiques et partis politiques, les leaders politiques, pour la plupart qui sont les hommes, n'arrivent pas à reconnaître le leadership des femmes, n'arrivent pas à faire confiance à ce leadership des femmes. Donc, pour moi, je me limiterai là pour le moment. Et en même temps, nous pouvons dire que la situation, elle est différente selon que nous sommes dans les grandes villes, les chefs-lieux des provinces ou dans la ville-province de Kinshasa, et quand nous sommes dans les zones rurales, parce que dans les zones rurales, le leadership féminin, on le voit plutôt dans tout ce qui est humanitaire et social, pas dans la gouvernance. Et ça, c'est suite à des pesanteurs socio-culturelles, mais aussi à l'ignorance de droits qu'elles ne connaissent pas. À l'analphabétisme et les taux élevés de l'analphabétisme. Merci.
Bien, alors je reviens à vous, Madame Pascaline Zamunda. Le thème national de ce mois a tourné autour du leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'heure de la COVID-19. Alors dites-nous, comment développer les leaderships de la femme à l'ère du numérique et dans ce contexte de COVID-19?
Voilà, je peux dire qu'en termes d'innovation, il y a pas mal d'obstacles. Et cela est lié d'abord par le contexte général. Comme on a toujours l'habitude de le dire ici, il y a déjà un véritable problème dans l'accès aux besoins sociaux de base en République démocratique du Congo et un retard sur ce qui est des consommations de droits numériques. Alors, on a vu les femmes se débattre, essayer d'élever leur voix, comme Madame Annie venait de le dire, et cela, c'était malgré le contexte de Covid. Ça veut dire, il y a eu recours à certaines technologies. Aujourd'hui, les femmes se sont débattues à être présentes, par exemple, dans les réunions où on débattait de leur sujet. Mmh. Elles ont pris des initiatives aussi en utilisant certains outils technologiques, mais les nombres, on peut dire, étaient très réduits. On ne peut pas et peu considérables par rapport à quand on évoque l'ampleur par rapport aux femmes. Alors c'est vraiment réellement le défi. Et je pense que ça a été une alerte de façon générale pour dire voilà, c'était la COVID qui est plutôt circonstancielle, mais ça a permis à ce que nous puissions voir dans différents secteurs les déficits qu'il y a encore par rapport à l'accès et à l'utilisation des outils technologiques de façon générale, mais aussi par les femmes de façon particulière, parce qu'il y a des domaines tels que la santé aujourd'hui. On a vu, moi j'ai suivi le ministre lui-même reconnaître que la COVID-19 a permis de démontrer encore une fois la fragilité du système de santé en RDC, vu que les ministères étaient dépassés et n'avaient pas suffisamment de moyens pour faire face. Et ça, c'est presque dans tous les domaines. On a vu avec l'éducation comment est-ce qu'il y a eu des sérieux problèmes pour l'accès à l'éducation, à l'information, à la formation avec les élèves, avec les enfants et presque à tous les niveaux, au niveau des universités. Mmh. Donc tout cela impacte d'abord la société de façon générale et la femme encore plus, parce qu'on reconnaît que la femme est un peu en retard vu que ses droits ont été reconnus aussi avec retard.
Madame Annie Maudy, le leadership de la femme par rapport à l'ère du numérique. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les femmes sont vraiment présentes et utilisent à bon escient l'outil, les nouvelles technologies? Allô? Madame Annie, vous êtes là? Voilà, elle n'est plus en ligne. Alors, nous allons accueillir dans ce studio Madame Solange Nyenyesi, Amici. Elle est députée nationale et représentante de la plateforme Action pour l'autonomisation et le développement des communautés africaines, ADEAC en sigle. Honorable Solange, bonjour.
Bonjour à la radio Okapi, à tous les auditeurs.
Bienvenue dans cette émission Okapi Service. Merci. Nous faisons les bilans du mois de la femme, c'est déjà la clôture. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport au leadership féminin?
Ce qui est sûr, c'est que je voudrais d'abord répondre à la question que tu venais de poser tout à l'heure en rapport avec l'utilisation du numérique.
D'accord.
Ouais. Alors, par rapport à l'utilisation du numérique, ça c'est vrai que c'est incontournable. Incontournable aujourd'hui et de plus en plus avec la COVID, tel que les amis l'ont dit, on a remarqué que nous étions donc très en retard par rapport à l'usage des nouvelles technologies et même sur le plan politique, sur le plan économique, commerce et tout. Mmh. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, on ne sait pas se vendre politiquement sans tenir compte des numériques.
Facebook aussi, aujourd'hui, WhatsApp et le reste.
Mmh. Vous savez aussi que certaines femmes entrepreneurs qui allait en Chine pour commander, devait le faire numériquement. Ça veut dire, vous faites vos commandes et ensuite vous attendez parce que avec la COVID, c'était impossible. Mais si vous n'êtes pas à même d'utiliser ces nouvelles technologies, c'est la catastrophe. Mmh. De la même façon, même sur le plan sanitaire, ça a été vraiment remarqué que nous avons vu beaucoup des insuffisances. Aujourd'hui, une femme peut avoir un produit, pour ne parler que des micro-entrepreneurs, peut avoir un produit qui ne sait pas vendre, alors que s'il pouvait peut-être le présenter numériquement, s'il utilisait les nouvelles technologies, il pouvait avoir plusieurs clients et la chaîne de production serait à la hausse. Voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est un défi. Et non le moindre aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous n'y sommes pas encore parce qu'il y a un problème d'analphabétisation, il y a un problème d'éducation, les femmes, le pourcentage des femmes éduquées est très faible, il reste encore faible, mais c'est un défi à relever parce que dans nos organisations, nous essayons même d'organiser des formations continues, des formations, des remises à niveau par rapport Dans les domaines du numérique, on essaie un peu de montrer les bien fondés, mais ce n'est pas évident. pour avoir un téléphone intelligent, c'est aussi un coût. Et rien que le petit téléphone, c'est déjà un problème pour ne s'arrêter qu'à cela. Parce que parler de l'ordinateur et autres outils qui sont très faciles à manier. Mais par contre, dans d'autres pays, c'est déjà évident.
C'est à la portée de tout le monde.
À la portée de tout le monde. Et ça nous recule un peu, nous, les femmes. On peut avoir même des opportunités d'emploi qui sont publiées en ligne. Mais dès qu'on n'accède pas, on reste sans emploi, surtout pour les jeunes filles qui sont à la recherche d'emploi. On peut aussi se vendre, on peut vendre son CV en ligne et attraper un boulot dans ce sens-là. Donc, on peut dire que nous sommes encore très loin parce que le numérique ne doit pas s'arrêter seulement à se faire des petits coucous sur Facebook et sur WhatsApp, etc.
C'est à faire des selfies.
Des selfies sur les boulevards. Ça ne doit pas s'arrêter là, mais ça doit nous aider à se développer de façon intégrale, économique, politique et sociologique sur le plan éducationnel. Vous savez, aujourd'hui, même nos enfants, nos petits-enfants ont des TP et par moments, ils utilisent les téléphones pour faire des recherches. Donc, tout est à la portée de tout le monde et il nous appartient d'organiser cela et de nous discipliner, d'apprendre parce que la Covid, les élèves sont restés, les jeunes filles particulièrement, les jeunes garçons aussi, sont restés à la maison pendant longtemps et pendant ce moment-là, la plupart s'amusaient dans des jeux électroniques et tout le reste, sans pour autant...
Devant la télé, ils ont passé beaucoup de temps...
Le leadership féminin passe aussi par là, passe aussi par l'apprentissage, passe aussi par la formation, passe aussi par un marketing d'excellence et ça passe aussi par la visibilité. Vous savez, en tant que femme politique, tu es censée avoir un blog où tu publies ton parcours, tout ce que tu fais, mais c'est pas évident.
Ton image de marque doit être bien présentée.
Doit être bien présentée, même avec le téléphone, tu peux le faire. Tu as une page officielle, tu as des amis à gauche, à droite et tu réagis par rapport à la politique. Et tout ça, c'est pas évident, mais je crois que nous devons nous impliquer pour booster nos jeunes, pour nous booster nous-mêmes. Et aussi, je crois qu'il y a même au Parlement une loi sur le numérique qui est sur le pipeline. Ce n'est pas encore discuté, mais je crois que ça serait quand même une très bonne chose parce que les numériques aussi, il y a un autre côté assez incendiaire.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Malonga de Bandundville, ingénieur Lokoa et Tambandaka. Malonga, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à notre invité.
Bien, quelle est votre question?
Bon, ma question d'abord est de savoir, je pose à la maman, qui elle nous explique très très bien. Et moi, je doute fort avec la compétence de la femme. Elle vient de nous dire très bien que le leadership féminin tient compte d'abord des niveaux intellectuels de la femme et tout ça en abrégeant tout ce qu'elle a commenté. Mais moi, je vois que la méritocratie doit primer à ça. Vous voyez quoi, ce que vous nous avez introduit aujourd'hui, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on est si encore. Le leadership féminin, vous nous avez introduit que nous sommes sur le bilan de Covid-19. C'est pas comme ça que je dis.
Non, nous faisons le bilan du mois de la femme, qui se clôture déjà. Mois a été célébré, on a parlé de leadership de la femme à l'ère de la Covid-19.
Okay. ça va, merci beaucoup, merci pour les rappels. Le bilan du mois de la femme, je vois que nous sommes dans l'évolution. Le rythme de célébrer ce mois, ça s'évolue petit à petit. Au fait, là où nous avions commencé, les femmes s'intéressaient beaucoup à elles-mêmes. Et sans monter à se vêtir l'épingle. Sans monter à ne pas se manifester encore en bas du public. Aujourd'hui, nous sommes vraiment au thème de pousser les femmes à se connaître elles-mêmes. Je les félicite beaucoup. Bon, comme nous sommes aujourd'hui le 30 mars, ici chez nous, dans nos villes, je félicite beaucoup. Même les mamans dans les églises, elles commencent à prêcher que non, nous ne pouvons pas seulement se limiter à nous-mêmes, mais il faut voir d'autres femmes et d'autres églises. Il faut voir d'autres femmes même qui ne construisent pas bien pour faire valoir notre féminité. C'est ce que moi je vois qu'en tout cas,
d'accord,
le monde est évolué.
D'accord, merci beaucoup. Merci Malonga, on retient qu'il y a eu évolution d'après vous par rapport au leadership féminin. Ingénieur Lokwa, vous êtes en Bandaka, bonjour.
Oui, bonjour la radio Kapi, bonjour aussi à nos deux invités. En train de jeu, je voulais d'abord saluer la bravoure des femmes qui sont à la conquête des leadership. Et je rappelle aussi que la femme n'est pas, en fait, un être faible, comme le pensent nous les hommes, mais plutôt un être qui a des faiblesses, et si les hommes arriveraient à l'accompagner, et ça serait une bonne chose. Mais je rappelle aussi aux femmes que le leadership auquel elles sont à la conquête ne serait pas un cadeau. C'est plutôt une mérite qu'elles vont faire un effort de guerre. Je voulais poser une question à poser à l'invité parce qu'on parle de leadership.
Oui.
Et nous avons... Oui, nous avons des types de leadership qui est leadership des faits et le leadership des droits. Et ça, si on parle de leadership des faits, c'est un type de leadership auquel une personne est née avec. Même au village, là où nous sommes, même au niveau des villes, nous avons aussi des leaders qui sont nés comme ça.
D'accord. Et d'autres qui les deviennent aussi. Alors, quelle est la question?
Oui, la question est de savoir lequel est le leadership que les femmes ont besoin ou le cas de leadership aujourd'hui qu'on peut attendre des femmes. Parce que si aujourd'hui nous voyons la lire ou les choses, les femmes ont tendance de beaucoup plus s'accrocher au leadership des droits qu'au leadership des faits, auquel un leadership. Et une personne est née avec.
D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci, ingénieur Lokwa. Madame Pascaline Zamunda.
Oui, merci beaucoup pour toutes ces explications et je salue l'honorable Solange qui est venue compléter en fait avec une manière explicite les débats sur le numérique avec toutes ces réalités, notamment sociologiques, économiques et avec un accent sur l'autonomisation. Et avec la question de l'auditeur qui vient d'intervenir tout à l'heure, aujourd'hui, bien sûr, on parle de leadership féminin, mais il n'y a pas un type de leadership pour les femmes, en fait. Le leadership, le processus, il est le même. Comme il a dit, il peut être naturel, il peut être acquis. Mais aujourd'hui, on parle en termes de type, des sortes de leadership. C'est comme ça qu'on évolue, du leadership autoritaire, au leadership des transformations, le leadership des serviabilités, par exemple, où on veut que les leaders se distinguent plus dans la capacité à servir, à montrer l'exemple, à transformer les vies, et c'est de ça dont nous avons besoin. Et nous voulons que quand les femmes sont en train de s'élever pour prendre conscience qu'elles peuvent être leaders parce qu'elles en ont les atouts, qu'elles développent plutôt ce leadership-là pour la société, pour les biens fondés de la société, pour qu'elles puissent traîner les gens derrière elle, qu'elle puisse faire, qu'une leader puisse naître plusieurs autres. Et c'est là, on sait que tout le monde va agir et cela va impacter les changements au niveau de la société.
Alors, Madame Pascaline, pour terminer, dites-nous, qu'est-ce qu'on doit continuer à faire pour promouvoir le leadership de la femme dans tous les secteurs?
Voilà, et je soutiens de plus en plus les plaidoyers qui veulent que quand nous évoquons les leaderships de la femme, que nous ne soyons pas figés sur certaines thématiques tout simplement, parce que la situation de la femme, l'épanouissement de la femme est complexe et dépend de plusieurs autres facteurs, et que nous puissions établir les responsabilités, que nous soyons à mesure aussi d'évaluer les travaux que nous faisons pour rectifier les tirs. Je suis très contente du fait qu'il y a un certain éveil permanent. Il y a une synergie, même si elle n'est pas structurée. Les femmes essayent de se compléter dans leurs actions et c'est très encourageant. Et j'espère qu'au niveau des plaidoyers que les femmes vont continuer à faire, va être bénéfique aussi au niveau social et ça va profiter toute la communauté. Parce que, comme on a toujours dit, la femme, c'est une créature, mais son rôle impacte tous les autres, toutes les autres créatures autour d'elle, au niveau de la famille, au niveau de la société, parce qu'elle a beaucoup de liens. Et nous espérons que son plaidoyer va susciter de l'intérêt, de l'attention, mais aussi va éveiller cette capacité dans les autorités à pouvoir saisir vraiment l'essentiel du contenu de plaidoyer que nous menons, notamment quand on évoque la représentativité des femmes dans les postes de prise de décision. C'est parce que nous estimons que les femmes, de par son rôle social au niveau de la société, elle peut, si elle est bien positionnée par son travail, impacter la vie au niveau individuel, au niveau de la communauté. Et on l'espère bien. Et on espère qu'à côté de ça, l'État va faire en sorte que les conditions sociales de toute la population s'améliorent. Parce que même si on fait les plaidoyers, mais s'il n'y a pas de l'autre côté une évolution en termes d'accès aux besoins sociaux de base au niveau général de la société, notre plaidoyer va toujours demeurer comme un champ. Et on espère vraiment que dans tous les autres secteurs, l'État va pouvoir assumer ses responsabilités.
Bien, bien. Madame Pascaline Zamunda, activiste des droits des femmes, merci.
Je vous en prie.
Bien, nous poursuivons avec notre invité dans ce studio, l'honorable Solange Nyenyezi. Alors, on va faire un petit bilan. Durant ce mois, il y a eu un nouveau bureau à l'Assemblée nationale, un nouveau bureau au Sénat. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a eu promotion, on a tenu compte de la femme dans la constitution de ces bureaux?
Oui.
Dans la mise en place de ces bureaux.
Ah, ça c'est très bien, parce que vous savez, on ne sait pas évoluer si on ne fait pas les statistiques. Mmh. Et donc, le bilan s'est aussi passé par les statistiques. Aujourd'hui, dans le bureau du Parlement, nous avons deux femmes. Le premier bureau, le bureau de Mabunda, certes, nous avions une femme à la tête, mais il y avait deux femmes au total, donc nous n'avons pas reculé. Mmh. Nous avons gardé le cap. Au bureau du Sénat, il y a eu évolution parce qu'il y a trois femmes. Cela ne suffit pas, mais c'est déjà un bon, parce que ce qui est normal sur le 7, ça serait tout à fait normal. La parité exige à ce qu'il y ait quatre hommes et peut-être trois femmes, ou trois hommes et quatre femmes. Mais c'est petit à petit, c'est un processus, vous le savez. Aujourd'hui, au Parlement, nous sommes 66 députés femmes. Le Parlement... Sur 500. En 2015, hein, je pense, celui qui nous a précédé, il y avait à peine moins de 50, 52. Mmh. Ensuite, au gouvernement, c'est 18% des femmes, le gouvernement passé. Et le président a promis pour le gouvernement que nous allons installer bientôt 30%. Ça veut dire que quelque part, on sent quand même une volonté.
Et certains affirment même que si la sortie de la publication du gouvernement tarde, c'est à cause de tout cela, de toutes ces considérations.
C'est affirmatif, donc c'est normal, la présence des femmes et des jeunes, parce que ces femmes-là représentent 52%. Comment vous allez ignorer 52% dans les postes décisionnels? Et donc la volonté politique y est pour beaucoup. Parce que les postes décisionnels, ce sont des postes où on nomme. Mais quant au poste électif, nous avons encore un combat. Nous sommes au Parlement, nous sommes à peine 66, pour ne parler que de ce bilan. Pour faire passer une loi, on a besoin de plus de 250. Voilà pourquoi nous avons cette thématique e-forchi. Ça veut dire nous évoluons avec les hommes. Nous n'évoluons pas seuls, nous ne nous battons pas seuls.
Les hommes genrés.
Les hommes genrés, mais tous les hommes sont censés être genrés parce que ce sont des pères, ce sont des fils de leur mère, etc. Ils ont ça en eux, même si au niveau maintenant du partage, au niveau des intérêts, ça coince, mais ils ont ça en eux. Ils savent qu'en essayant de travailler pour la promotion d'une femme, c'est promouvoir toute une nation. Les pays où les chefs de l'État, les politiques de promotion de femmes ont été visibles, on a senti que ces pays, il y a eu développement. Parce que les femmes prennent en compte, les hommes aussi, prennent en compte les besoins sociaux de toute la communauté. Ils ont l'accès facile à la population. Ils sont proches. Ils connaissent les besoins réels. Je ne dis pas que ce n'est pas autant pour les hommes, mais elles ont cette intuition aussi dans ce qu'elles font. Donc, le bilan en RDC, nous avons eu une femme au perchoir de l'Assemblée, mais elle n'a pas été remplacée par une femme. Parce que, vous savez, notre ami a parlé de la méritocratie. C'est aussi un poste électif. Ça veut dire les urnes ont tranché, on ne sait pas faire autrement. Mais nous nous sommes battus bec et ongles pour faire passer deux femmes. C'est déjà ça. Et je suis sûre que dans les jours qui viendront, on ne saura plus reculer, on va plutôt avancer. Ça veut dire on aura aussi au Parlement trois femmes. Aujourd'hui, dans les entreprises, c'est à peine 10% des femmes mandataires. Nous pensons que dans...
C'est encore très faible.
C'est très faible. Nous pensons que le chef de l'État a la très bonne volonté d'échanger les choses. Parce que les femmes, il y en a. Il n'y manque pas de femmes compétentes, il y en a dans les universités, dans les ONG, partout, elles sont là. Maintenant,
Quelqu'un a dit tout à l'heure, il y a le leadership des faits et le leadership d'après lui, pourquoi les femmes réclament le leadership alors que, et pourtant on est avec cela.
Non, vous savez,
on est leader.
On n'est pas leader. Plusieurs hommes le deviennent. Ils apprennent à être leader. Mmh. On n'est pas leader. Ils apprennent, ils ont le courage. Alors les femmes, il faut un peu impulser, il faut être derrière, pousser, booster, parce que c'est comme une coquille cachée qu'il faut, il faut découvrir une femme. Et lorsque vous la découvrez, vous sentez qu'elle a beaucoup de merveilles. Donc il y a moyen de compléter ce leadership inné et le leadership acquis, ça veut dire par la formation, par le mentorat, par la synergie, le fait de travailler ensemble, d'échanger des expériences, ça aide aussi à se découvrir et à savoir qu'on est compétent quelque part, on est aussi compétent. Je suis d'accord avec la compétence, vous savez, quand on est élu, mais ce sont les urnes qui parlent, ça veut dire vous êtes descendu sur terrain, vous avez battu campagne
et vous avez convaincu et
vous avez convaincu, donc il y a la méritocratie là.
Oui.
Et encore, vous savez que les femmes travaillent plus. Parce qu'il y a des hommes qui trichent aussi, et des femmes aussi qui trichent. Mais vous savez, la méritocratie, nous sommes d'accord. Parce que, et les hommes, voilà pourquoi nous insistons sur l'éducation des femmes, des filles et des garçons. Parce que au niveau de l'école primaire, dans les villes, on voit les femmes, on voit les jeunes filles et les hommes. Et on sent que, selon les statistiques, les jeunes filles ont tendance à être, à prendre, à occuper les premières places au niveau de l'école. Donc elles méritent, elles sont intelligentes, mais ensuite après il y a des perditions. Il y a des perditions avec nos traditions, voilà. La femme doit aller au mariage et ensuite elle est perdue, elle ne sait plus chercher de boulot. Et on perd toutes ces femmes-là. Moi, j'ai étudié avec plusieurs femmes compétentes aujourd'hui et qui méritent d'être placées quelque part. Mais par moments, on ne les voit pas. Et on ne les voit pas parce
qu'elles
disparaissent de la scène. Elles se fatiguent ou elles se découragent. Voilà pourquoi il faut travailler en synergie, travailler dans les mouvements associatifs, travailler dans les groupes d'intérêt et ainsi impulser ceux-là qui hésitent encore parce que vous savez...
Honorable, un instant, il y a trois auditeurs en ligne. On va les accueillir et j'invite les femmes aussi qui nous écoutent en ce moment, mesdames, appelez au 081-890-63-94. Sylvain Chibang, vous êtes à Mweka. Bonjour.
Bonjour, bonjour la radio Okapi, bonjour la radio de la paix.
Rapidement, quelle est votre question, Sylvain?
Merci beaucoup. Moi, le problème qui m'intéresse à propos de cette thématique du jour, cette problématique, moi, j'ai toujours dit que c'est une problématique qui est liée et que j'attribue ça aux hommes. Parce que vous voyez actuellement, il y a des femmes qui ont une connaissance approfondie. Et lorsque nous remarquons dans des entreprises, dans des ONG, que ce sera ONG, ASBL et autres, nous ne voyons pas la majorité des femmes. Alors que les femmes ont étudié, ils ont la capacité, ils ont la connaissance, et nous constatons que cela est lié aux hommes. Des fois, moi, j'attribue ça aux hommes, parce qu'il y a des hommes qui refusent que leurs femmes ne travaillent pas. Parce que des fois, lorsque les femmes travaillent, vous voyez, avec le passé des hommes, peut-être des femmes peuvent tricher, des femmes peuvent faire d'autres choses qui ne collaborent pas avec le mariage. Et de ma part, j'attribue cette tâche aux hommes. Mais je demande en tant qu'homme, je demande à tout homme de rester un peu patient, de laisser librement leurs femmes qui ont vraiment étudié, qui ont des capacités de travailler dans des ONG, dans des ASBL, dans des entreprises publiques, que ce soit dans n'importe quel domaine.
D'accord, merci Sylvain.
Travailler librement.
Voilà, que les hommes laissent les femmes travailler librement. Maître Edmond Bokolo, vous êtes à Kisangani. Bonjour. Maître Edmond, bonjour. Il n'est plus là. Gabriel Kombe, depuis Bokungu, dans la province de la Choapa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre préoccupation, Gabriel?
D'abord, ce qu'il faudrait faire pour la promotion du leadership féminin en RDC, à mon humble avis, la promotion de la femme doit être une préoccupation essentielle en RDC, qui doit aussi intégrer une dimension du genre dans la quasi-totalité de ces interventions auprès des communautés de base. Mais c'est aujourd'hui. Tout d'abord, je pense que la femme doit d'abord se libérer. La femme doit elle-même avoir une libération d'une certaine prison dans laquelle elle se vit depuis des années. Ma question que j'aimerais poser à l'invité, pourquoi la femme elle-même ne reconnaît pas ses compétences, ne reconnaît pas sa capacité? Merci, M. Jody.
Bien, merci. Honorable Solange, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Gabriel de Choapa et Sylvain
de Mouika. Qui nous dit que certains hommes bloquent leurs femmes alors qu'elles ont des compétences. Exactement. Ils refusent que leurs femmes travaillent par crainte d'infidélité.
En tout cas, nous remercions beaucoup Sylvain pour cette sincérité. Parce que justement, il y a plusieurs femmes qui n'accèdent pas à l'emploi à cause de des hommes
ou de la jalousie.
De la jalousie et aussi,
de leur mari.
En fait, l'excès de protectionnisme. Ça veut dire, l'homme pense que si la femme travaille, les enfants seront laissés pour délaisser. Mmh. Et donc, par protection, il se dit, bon, voilà, autant mieux qu'elle reste là, ou bien je lui cherche une boutique à côté.
Comme ça, il s'occupe
et
des
pourtant,
enfants.
Le code de la famille, qui est une loi que nous avons votée, autorise chaque femme à travailler. Et on a même élagué l'autorisation maritale. Mais on encourage la communication entre les couples, entre mari et femme, en rapport avec l'emploi des femmes. Donc à ce sujet-là, nous saluons cette reconnaissance et cette sincérité des hommes qui les reconnaissent. Et nous les encourageons à lever ces barrières qui pour eux, toute femme qui travaille est une pute ou va aller chercher des copains ou une peur bleue par rapport à ça. Nous devons vraiment nous libérer de cela. Et
ils ont peur de perdre leur femme.
Oui, ils ont peur. C'est par protectionnisme. Mais je crois que s'il y a une bonne communication entre couples, cela peut être levé. Et aussi travailler. Nous encourageons aussi les femmes qui travaillent, mais elles vont peut-être travailler, elles rentrent tard, elles négligent tout à la maison. Ça aussi, ce n'est pas des actes à encourager parce que ça prête le flanc à ces hommes-là qui pensent que la femme ne doit pas travailler. Ce n'est pas le cas. La loi en RDC permet à la femme de travailler et à lever l'autorisation. Pour Gabriel de Choapa, il pense que la femme doit se libérer d'elle-même.
Elle s'est emprisonnée.
Pourquoi elle n'a pas confiance en elle?
Elle n'a pas confiance en elle.
Non, mais c'est de même. Hein. Les hommes aussi, par moments, n'ont pas confiance. Mais aussi, cette confiance en soi, c'est à partir de l'éducation qu'elle a reçue. Si toi, parent, tu montrais à ta fille et à ton garçon, tu lui donnais des conseils, tu l'aidais à avoir confiance en lui, en elle, les choses se passent autrement. Parce que
ce sont les parents qui doivent aider les enfants à construire cette personnalité.
Oui, la personnalité est construite dès les bas âges et au niveau
de la famille.
De la famille. Moi, je me rappelle, mon père me félicitait souvent. Et puisqu'il me félicitait, qu'est-ce que je disais? Lorsque j'ai
vous félicitez pourquoi?
Pour parce que j'étais première, deuxième de la classe.
Okay.
Alors et je me disais, je dois toujours garder cette place, comme ça je vais lui dire j'ai une bonne note, il va me féliciter, je suis content et je me sens vraiment et par moment quand tu as un problème, tu parles avec les parents, ils te disent non, tu vas y arriver, ma fille, tu es forte, donc il faut dire des bonnes paroles.
Voilà.
Encourager les enfants à aller plus loin, reconnaître leurs qualités, n'est pas toujours comparer les enfants ou n'est pas toujours par moment il y a des parents qui insultent. En fait, ils veulent la perfection et maintenant ils créent autre chose.
Ils le font de la mauvaise manière.
Ils le font de la mauvaise manière et ils créent un peu comme un complexe, frustration au sein de l'enfant et ainsi de suite. Et déjà, vous savez, dans nos coutumes, on se dit non, l'homme doit aller travailler, doit aller à l'école, la femme, elle doit rester à la cuisine avec maman. Et donc déjà. Dans nos traditions, c'est comme ça, où tous partent à l'école et la fille, elle revient, elle doit préparer, le garçon, il est là, il suit sa télé. Et tout ça, ça reste et on croit que c'est comme ça qu'on doit évoluer. Pourtant, nous devons nous tenir main dans la main. Les hommes, les femmes doivent travailler pour le développement de ce pays, mais aussi pour répondre aux objectifs du développement de l'Afrique, du monde, aux objectifs du millénaire.
On va accueillir trois auditeurs. Maître Edmond de Kisangani, Kama Roger de Kinshasa et Platini Mbombo de Mbandaka. Maître Edmond de Kisangani, bonjour.
Bonjour, monsieur Jobi. Bonjour à l'invité également, à tous les auditeurs de la radio.
Rapidement, quelle est votre préoccupation?
Merci. Moi, je crois que en ce qui concerne le leadership féminin, notre pays est doté de toute une litanie de pertes juridiques qui protègent suffisamment la femme. Et dans la pratique, ce que nous constatons est qu'il y a des femmes quand même, comme l'invité vient de le dire, il y a des femmes qui sont extrêmement compétentes. Moi-même, comme enseignant également, je constate que nous recevons même certains étudiants qui sont extrêmement intelligents. Mais le problème de la femme, c'est la femme congolaise, la plupart des femmes, oublie cette compétence, oublie cet esprit qui peut lui permettre d'égaler les hommes. La femme congolaise profite de sa position de féminité pour essayer un peu de s'affaiblir. Voilà, donc c'est un peu ça ce qui pose un problème. Si la femme congolaise peut oublier la féminité, par exemple, dans un concours, la femme doit s'opposer, doit contrarier aux hommes, doit égaler aux hommes, mais lorsque la femme elle-même sera faible pour obtenir une faveur, c'est ce qui fait que le leadership ou la promotion des droits de la femme ne soit pas vraiment promis. Voilà pourquoi nous encourageons les femmes. Actuellement, comme l'invité vient de le dire, le code de la famille, l'article 448, donne déjà la femme mariée, par exemple, le pouvoir de tout faire. Actuellement, nous sommes dans les régimes de concertation. Voilà, donc la femme peut tout faire et la femme, avec les lois et les instruments internationaux que nous avons ratifiés, nous espérons que si la femme se met debout, quand même, le leadership féminin peut sensiblement évoluer.
Bien, merci. Roger Kamaï, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Roger Kamaï, bonjour. Il n'est plus là. Platini Mbombo de Mbandaka, bonjour.
Je dis bonjour, je salue toutes les femmes à travers le pays.
On vous écoute, Platini.
Voilà, merci beaucoup aujourd'hui de m'avoir accordé la parole. Je pense que je dois quand même épingler, comme Maître Edmond Moko l'a dit. Nous, souvent, les hommes, nous sommes habitués à seuls avec les femmes. Vous allez constater que même maintenant, là, on a étudié sur le banc de l'école, il y a des femmes capables, méritent, qui font très bien le travail. Soit une femme trop intelligente, mais ce que je pose serait quand même, c'est tout sur le plan de la leadership, je dis. Et donc, laquelle je reviens sur ça, que le femme doit comprendre que dans son capacité avec les hommes, c'est à peu près. C'est légal. Mais souvent, et même les femmes ne poussent pas à connaître, sinon je suis une femme, je suis trop intelligente, soit tout ce que je peux faire, les garçons peuvent aussi faire, ou soit les garçons ne peuvent jamais aussi également faire comme les femmes font. Mais souvent, il y a un problème qui se passe au niveau de la femme, c'est ce qu'on appelle la féminité. hein, les femmes toujours courir derrière les garçons, tout ça, les femmes, leur capacité, le bagage intellectuel, arrive même pas à comprendre ce qu'il y a de lui. Donc c'est ça ce qui se pose un sérieux problème. Voilà un peu ce que dans ces cas de l'émission, on doit quand même encourager que les femmes, surtout les femmes trop intelligentes là, qui font que le travail, parce qu'il y a beaucoup de femmes qu'on les connaît, il y a des ministres provinciaux, il y a aussi des vice-gouverneurs que moi je le connais, mais c'est une dame, mais aussi même au gouvernement central, il y a aussi des femmes capables. Mais les femmes capables doivent montrer qu'elles sont capables à faire tout ce qui est possible. Alors, voilà un peu, je dis. Que je voudrais aussi contourner par rapport à la thématique d'aujourd'hui.
Bien, merci. Honorable Solange, vous avez la parole.
Merci beaucoup pour Edmond qui nous a rappelé l'arsenal juridique en RDC. Nous avons même ratifié aux textes internationaux en matière de droits des femmes, mais le grand défi, c'est l'applicabilité. Ça, nous le savons, et c'est des efforts à fournir au niveau du Parlement. Aujourd'hui, nous avons même une commission évaluation suivie. C'est aussi celui d'évaluer une loi qui a été votée, pourquoi elle n'est pas appliquée, où est-ce que nous en sommes et pourquoi, et faire des recommandations au gouvernement pour améliorer, soit alors essayer d'actualiser et de le mettre en contexte. Et la femme congolaise, il a dit qu'elle s'affaiblit elle-même parce qu'elle cherche à obtenir le pouvoir.
Des faveurs.
Des faveurs.
Elle met en exergue sa féminité au lieu de
mettre. Et Edmond a dit qu'il reconnaissait que les femmes.
D'éprouver ses compétences, oui.
Il reconnaissait les compétences des femmes, même à l'université, parce qu'en tant qu'enseignant, il voit des femmes assez compétentes, intelligentes. C'est le cas aussi de Roger, qui l'a dit. Mais ils mettent plus la féminité en avant-plan au lieu de mettre la compétence. Ça s'apprend aussi, comme on a dit. Le leadership n'est pas inné. Il s'acquiert aussi par la formation, c'est par la lecture. Il faut lire ceux qui sont devenus grands. Ils sont passés par où? Et l'apprentissage.
Honorable, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour, par exemple, pour les jeunes filles, les aider à développer ce sens des leadership?
Souvent, les jeunes filles, je les mets ensemble. J'ai une association, l'Action pour l'autonomisation des communautés africaines, où nous pouvons, autour d'un thématique, échanger et là, laisser tout le monde parler. Vous mettez un thématique, vous formez, ou soit alors les brainstorming ou les jeux de rôle autour d'un enjeu.
De temps en temps, vous allez dans les écoles rencontrer
les
jeunes filles.
Si. Okay. Dans les écoles, dans les salles et tout, parce que, vous savez, l'ignorance aussi tue. Beaucoup des filles ignorent, ne s'occupent pas de ce qui se passe dans le pays, ne s'occupent pas de la politique, parce qu'ils n'ont pas des modèles. Ils doivent se constituer des modèles, avoir des personnes que vous considérez comme modèles. Moi, je deviendrai comme telle. Je me disais, à l'époque, j'appréciais beaucoup Madame l'honorable Marie-Ange Loukiana, qui est aujourd'hui une collègue au Parlement, vous voyez, et je me disais...
C'est elle qui était votre modèle.
C'était ma modèle. Et je me disais, je dois faire comme elle, je la trouve, elle est vraiment une femme dynamique, coup de chapeau à elle. Voilà, aujourd'hui, je suis à côté d'elle, je continue toujours à recevoir aussi ses sages conseils, on échange l'expérience, et voilà. La lecture, la formation, on peut avoir appris à l'école, mais il y a aussi des formations dans les ONG, aller vers les autres, lisez et vous allez apprendre plus. Vous savez, les femmes souvent manquent le courage. Il faut briser la peur. Parce que, comme nos frères Roger et Edmond l'ont dit, c'est souvent la
Platini.
C'est souvent la peur qui empêche certaines femmes à aller plus loin. La peur.
Elles la peur de quoi? Elles ont peur de quoi?
Elles ont peur de l'inconnu. Elles ont peur d'oser. Elles ont peur de prendre la parole en public. Elles ont peur de partager l'expérience. Elles ont peur de commencer un commerce, de se jeter à l'eau. Pendant que les hommes, par moments, se jettent à l'eau. Et à force de rencontrer des difficultés, vous arrivez quand même à trouver des solutions. Parce que les hommes grands, ils sont passés par plusieurs difficultés et ils sont forgés. Aujourd'hui, ils sont grands. Donc, nous devons vraiment vaincre la peur et aussi le travail en synergie. Parce que une expérience, vous savez, vous pouvez être des femmes qui vendaient des pagnes. Mais va vers celle qui vend des pagnes depuis longtemps. Elle va te dire quelles sont les véritables difficultés qu'elle rencontre. Et peut-être en échangeant avec elle, tu sauras au moins passer outre ces difficultés-là. Nous avons aussi, nous sommes un peu méfiantes les unes les autres. Mais moi, je me dis, une femme, lorsque tu l'approches, elle s'ouvre. J'ai approché les femmes et les hommes, certes, mais j'ai eu plus la voix des femmes. Et donc, quelque part, les femmes, lorsqu'on les approche dans les paroisses, dans les églises, dans les associations, dans les mouvements, à l'école, à l'université, on sent qu'elles sortent les meilleures d'elles-mêmes.
Donc le combat pour le leadership de la femme ne doit pas s'arrêter avec la fin du mois de mars.
Non, non.
La lutte continue.
Non, la lutte continue et le leadership féminin doit en réalité se poursuivre. C'est un processus. C'est un processus aussi d'apprentissage. C'est un processus aussi au niveau du pays où nous devons avoir des politiques de leadership féminin, parce que avec ces politiques-là, la mise en œuvre sera plus facile, parce que s'il y a la volonté de l'État, du chef de l'État, il y a la volonté politique de nos présidents des partis politiques à promouvoir les femmes, à inscrire, à présenter les femmes sur les listes des postes nominatifs, vous savez, il y aura plus des femmes parce qu'elles sont compétentes. Les hommes l'ont reconnu. Et coup de chapeau à ces hommes genrés et à ces hommes qui sont loin de toutes les 26 provinces, reconnaissent qu'il y a des femmes compétentes. Ils ont des enfants compétents. Ils reconnaissent la compétence de leur maman. Et maintenant, comment promouvoir ce leadership, c'est apprendre.
Surtout
aussi
en prévision de 2023 qui se profile à l'horizon. Est-ce qu'on peut espérer cette fois-ci qu'il y aura beaucoup de femmes au Parlement et à tous les niveaux?
C'est vrai qu'il y a quelques petits réglages à faire au niveau de loi. La loi électorale doit subir quelques réglages et au niveau de la loi de partis politiques. Mais je crois qu'avec ça, si nous maintenons, si la volonté politique y est et que nous sommes nous tous unis pour le bien de notre pays, les choses peuvent changer. Mais c'est pas un bâton magique, ça va petit à petit.
Alors c'est maintenant qu'il faut déjà préparer les femmes, les jeunes, toutes celles qui ont des ambitions politiques.
Exactement. Nous sommes disponibles dans notre ONG à préparer les femmes, à parler avec les femmes, à parler avec les jeunes filles. Du reste, elles sont là. Moi, celle qui gère au quotidien l'ONG, c'est une jeune fille. Ça veut dire c'est le transfert de compétences intergénérationnelles. Ça, c'est très important. Lorsque nous évoluons, nous avons des modèles, certes, mais nous devons aussi voir les plus jeunes et constituer des modèles et être ouverts. Ce n'est pas parce que tu es élu, tu n'ouvres plus ton téléphone, tu ne reçois plus. Moi, je reçois, j'ai le même numéro. Je peux recevoir un appel, je dis que je vais te rappeler, ou soit alors je ne suis pas disponible, mais au moins je reçois le téléphone. On est là disponible pour travailler pour la nation. Le leadership féminin, c'est aussi un critère pour les pays en développement.
Ouais. Honorable Solange, on a souvent l'impression que la femme rurale est négligée dans tout ça. Et pourtant, il y a aussi des femmes leaders dans les milieux ruraux.
Non, il y a des femmes leaders. Même celles qui vendent les pondous partout, les pilipili, il y a des femmes leaders. On sent qu'il y a... Moi, j'en découvre plusieurs parce que je travaille avec les micro-entrepreneurs, les femmes qui font des petits commerces. Et donc, il y a des femmes leaders entre elles. Et il faut seulement les organiser. Par moment, les mettre en coopérative, les mettre en secteur d'activité. Il y en a. Et le leadership n'est pas acquis d'avance. Il doit poursuivre la formation, le coaching, le partenariat, les échanges d'expériences. Ça, c'est important. Et dans ces femmes-là, celles qui nous nourrissent tous les jours, celles qui nous vendent du pain chaque matin à 5 heures, il y a des femmes leaders parce que le leadership, c'est aussi le respect. Le respect du timing. Elles se réveillent à 5 heures, elles ont un programme bien défini. Mais nous devons aussi permettre à ces femmes-là d'évoluer en permettant l'accès au crédit, l'accès aux soins de santé, l'accès au bien-être, l'accès à l'eau, aux petits, à tous ces besoins primaires. Mmh. C'est évident parce que si tous ces besoins primaires, l'eau, le courant, et tout cela ne pose problème. Vous savez que ça décourage même le leadership féminin. Donc, nous devons travailler ensemble, main dans la main, les hommes et les femmes, pour ce pays. Ce pays est riche et ce pays a beaucoup de femmes. Ce pays a beaucoup d'hommes.
52%.
52%
voilà,
des femmes.
Voilà, c'est beaucoup, bien sûr.
Et donc, c'est une ressource. Hein.
D'accord. Merci, honorable Solange Nyenyezi Amissi. Je rappelle que vous êtes députée nationale et représentante de la plateforme Action pour l'autonomisation et le développement des communautés africaines, ADAC en sigle. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Bien, fidèles auditeurs, tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler du phénomène école et enseignants fictifs en République démocratique du Congo. Plus de 2000 écoles fictives, imaginaires, on en parle tout à l'heure dans Okapi Service.